anonyme, emporté par une marée humaine. Un matelas roulé sur la tête. Impossible de prendre le peu de choses qui nous restent. Pas le choix, il faut avancer. La vie est partie en fumée. Ne pas se retourner.
Trop vite arraché, saignent encore si fort, on ne peut pas s'habituer. On n'espère pas les replanter, juste vivre en paix, sans trop vous déranger. Pas le choix, il faut avancer, la vie est partie en fumée, ne pas se retourner. Nous aussi, nous avions un métier. Nous aussi, nous avions un quartier. Des voisins, des odeurs et des gestes familiers. Nous aussi, nous avions une routine. Notre adresse n'était pas clandestine. On nous voit sans nous voir. Nos visages ont une histoire.
Donc, cette chanson vient de la comédie musicale Gladys Aylward, Au-delà des montagnes. C'est une comédie musicale qui va bientôt être jouée à Yverdon. Donc, cette comédie, c'est l'histoire réelle de Gladys, une jeune femme anglaise qui a ressenti un appel de Dieu pour devenir missionnaire en Chine. À l'âge de 30 ans, donc, elle prend le train toute seule pour vivre cette aventure. Elle a juste une valise avec des boîtes de conserve et quelques habits, et puis elle y va. Et la comédie musicale montre bien la difficulté d'intégration et une certaine exclusion qu'un étranger peut ressentir dans un autre pays. Je ne parle pas ici d'être touriste. Hein. Les touristes sont généralement bien acceptés. Je parle bien de quelqu'un qui va habiter à l'étranger. Dans le cas de Gladys, ça parle encore plus, parce que ce n'était pas une réfugiée, ni quelqu'un qui était venu profiter de la situation économique du pays. Non, son pays d'origine, c'était mieux politiquement, il était mieux financièrement, elle était venue pour servir. Elle était venue dans ce pays pour annoncer Jésus, pour montrer l'amour d'une manière pratique. Ce n'était pas pour recevoir du pays, c'était pour donner dans un autre pays. Et même comme ça, elle a souffert de l'exclusion et du rejet au début. C'est des attitudes du genre « tu n'es pas d'ici, rentre dans ton pays ». Tu connais pas nos habitudes, t'as rien à faire ici. Et elle a ressenti cela. Des fois, c'est des mots qui peuvent être dits, mais des fois, c'est des attitudes qui montrent qu'on a ces pensées-là. Et aujourd'hui, on commence cette série en parlant de l'étranger. On parle de l'étranger dans le sens premier du terme, quelqu'un d'une autre nationalité. Et on va parler de quelqu'un d'une autre nationalité qui spécifiquement est venu habiter dans notre pays. Mais les choses que je vais aborder ici sont valables pour les autres domaines de la série. Donc pour la pauvreté le dimanche prochain, pour le racisme dans 2 semaines et pour la valorisation de la femme, la dernière partie de cette série. Quelle est la faute de l'étranger? Quel est son problème? Quel est le défaut de l'étranger? Son premier problème, c'est qu'il est différent de nous. Il est différent de nous dans le visuel. Sa coupe de cheveux est bizarre. Sa couleur de peau est différente. Son choix de parfum est peut-être surprenant. Il est trop peu soigné ou beaucoup trop maquillé. Il est différent de nous dans les habitudes. Les horaires, l'organisation de la journée peuvent être différents de nous. La manière d'éduquer les enfants est différente. La nourriture et les goûts sont différents aussi. Notre chef en Suisse, Henrik Andersen, il est danois. Il avouait récemment qu'il n'aime pas le fromage. Comment il peut vivre dans ce pays et n'aimer pas le fromage? L'étranger est différent de nous aussi dans le langage. Soit il ne parle pas notre langue ou très peu et on ne peut pas avoir une conversation normale. Soit il parle notre langue mais avec un accent. Et ça dérange un accent. Voilà son défaut. Il est différent de nous. Et Jésus l'avait déjà dit. On voit beaucoup mieux les erreurs, les défauts des autres que les nôtres. C'est normal. C'est beaucoup plus facile. Jésus l'a dit. Tu regardes le bout de paille qui est dans l'œil de ton frère, mais le tronc d'arbre qui est dans ton œil, tu ne le remarques pas. Pourquoi donc? Parce que c'est plus facile de voir l'erreur dans l'autre. On est habitué avec nos manières de faire et on est souvent aveugle pour nos propres mauvaises habitudes. C'est comme l'angle mort dans la voiture. Quand j'ai refait des cours pour repasser le permis en Suisse, elle m'a montré une fois l'instructrice. Elle est sortie de la voiture pour me montrer exactement où c'était l'angle mort. Donc elle dit, regarde-moi bien dans le miroir. Puis elle est jusqu'à un point, tu me vois toujours? Je dis non, là je ne te vois plus. C'est cet angle mort-là. Les personnes d'extérieur voient quelque chose en nous, mais nous on ne voit pas ce qu'il y a en nous-mêmes. Cet angle mort qu'il y en a tous. On a tous des angles morts. Il y a des choses que seulement quelqu'un d'extérieur voit en nous. Et nous on ne voit pas en nous. Et alors ce qui se passe, c'est qu'on trouve énorme le dérangement qu'on trouve chez quelqu'un d'autre. Parce que cet étranger fait ceci, cet étranger fait cela, c'est énorme. Et l'étranger, il voit la même chose en nous. Par exemple, ils vont se dire peut-être, mais ces Suisses sont tous froids. Ils vivent tous d'apparence. Ou ils ne s'intéressent qu'à leur travail et à leur confort. Ils vont avoir aussi ce préjugé par rapport à nous. Donc il y a forcément une confrontation. Chacun voit ce qu'il y a de pire chez l'autre. Il y a Natacha, la traductrice des Ukrainiens qui est avec nous, au début du travail, avant qu'on arrive, il y a Georgie et Dominique qui l'ont accueilli, qui ont présenté le travail, qui ont dit qu'il y aurait ces rencontres pour manger ensemble, pour qu'ils puissent se connaître mieux, pour qu'ils puissent connaître d'autres Suisses, un lieu d'accueil. Et puis, il a tout de suite demandé, mais vous voulez en venir où avec cette histoire? Elle a dit cette méfiance, la peur d'être piégée dans quelque chose, dans une secte peut-être. Chacun voit la paille qui est dans l'autre, ce qu'on ne voit pas en nous-mêmes, et puis ça cause une confrontation. Dans le cas de Natacha, c'était en regardant le côté église de l'armée du salut, puis avoir peur de se faire embobiner dans quelque chose. La peur qu'on profite de leur faiblesse. Elle nous regardait, qui c'est ces étrangers que je ne connais pas et qui proposent quelque chose. Cette tendance à voir facilement le négatif chez l'autre, elle est encore amplifiée en tant que société. Parce que, soyons honnêtes, il y a des grades de jugement envers l'étranger. Ça dépend de sa condition pour qu'il soit plus ou moins accepté dans la société suisse. Je vais vous faire une classification du regard de la société suisse envers l'étranger. Ma classification va de qui est le plus facile à accepter par les Suisses pour jusqu'à ce qui est le plus difficile à accepter en tant que Suisse. Premier, en top de la liste, un homme suisse marié à une femme étrangère. Ça passe bien, la société voit assez bien. Maintenant, une femme suissesse mariée à un homme étranger, c'est pas la même chose. Ça descend un petit peu dans l'acceptation. Il faut ajouter aussi si l'étranger ou l'étrangère travaille en dehors de la maison ou pas. Ça aussi, ça va peut-être descendre d'un cran ou remonter d'un cran s'il travaille à l'extérieur de la maison ou pas. Il y a le couple d'étrangers qui est venu travailler dans une grande boîte, Nestlé par exemple. Si c'est des étrangers de l'Union européenne, d'Angleterre, Canada, Australie, ça peut bien passer. Si c'est des autres pays, il peut avoir une plus grande résistance. Après, il y a le réfugié politique, parce que souvent, ils ne viennent pas en grand groupe. Des fois, c'est un petit groupe qui vient. Encore plus bas, il y a le réfugié de guerre. De nouveau, dans le regard, on va demander est-ce qu'il travaille ou pas quand il est venu en Suisse. Et en tout dernier, il y a les sans-papiers. Et encore dans les sans-papiers, ça varie aussi l'acceptation selon les nationalités. Il y a des nationalités sans-papiers qu'on a plus de facilité et des nationalités sans-papiers qu'on a plus de difficultés. Ce n'est pas une classification fruit de recherche scientifique, c'est comment moi je sens que la société voit les étrangers. Peut-être vous classifierez différemment. Mais une chose est certaine, tous ici, moi inclus, on traite chaque groupe de nationalité et chaque condition sociale avec un degré d'acceptation différent. On le traite différemment, on les regarde différemment. Quelques-uns trouvent plus facile à accepter, d'autres trouvent plus difficile à accepter. Et ce n'est pas seulement en Suisse, hein. Au Brésil, qui est considéré un pays très chaleureux, qui sait accueillir les étrangers, et c'est vrai, Samuel et Stéphanie peuvent témoigner de cette acceptation. D'une manière générale, au Brésil, un Vénézuélien ne va pas être reçu comme un Français. Dans la classification suisse, il y a encore d'autres aspects qui entrent en compte pour faire monter ou descendre dans le degré d'acceptation. Par exemple, est-ce qu'il a besoin d'aide, de services sociaux, par exemple? Est-ce que c'est de sa faute? Est-ce qu'il est dans cette situation parce qu'il a des addictions, par exemple? Est-ce qu'on a l'impression qu'il veut profiter de nous ou profiter de notre pays? Est-ce qu'il s'adapte à nos règles? Est-ce qu'il fait l'effort de suivre certaines de nos coutumes, comme les lois, bien sûr, mais aussi la langue, la ponctualité, la valeur du travail? Est-ce qu'il fait l'effort de s'intégrer à ces choses-là qui va monter ou descendre dans l'acceptation? Maintenant, c'est sûr qu'il y a des règles à respecter en Suisse, hein. C'est fondamental. Il doit aussi avoir des règles pour déterminer qui notre pays autorise de rester ou n'autorise pas à rester en Suisse. Il faut avoir des règles. Mais dans la vie de tous les jours, c'est pas à nous de juger ça. On a élu des dirigeants, on a voté des lois et on peut leur laisser cette lourde responsabilité sur les épaules. C'est pas à nous de faire le tri dans la vie de tous les jours. Nous, on a une autre responsabilité. Notre responsabilité en tant que disciples de Jésus, c'est d'apporter la réconciliation que Dieu nous appelle à vivre. C'est ça notre responsabilité. Quel que soit leur passé, quelle que soit la catégorie que la société classe un étranger, notre mission est différente. C'est pas de faire le tri. D'autres personnes vont le faire. Notre mission, c'est d'apporter la réconciliation de Jésus. Peu importe d'où ils viennent, peu importe leur situation familiale, peu importe leur situation sociale. Et comment on le fait? J'aimerais prendre deux conseils de la Bible pour nous aider dans cette réconciliation. Le numéro un, la chanson disait « Regarde-nous, nos visages ont une histoire. Regarde-nous, nos visages ont une histoire. » Donc le conseil numéro un, c'est celui-là. S'arrêter et s'intéresser, regarder et découvrir l'histoire, ça veut dire ça. Jésus a un jour raconté une histoire pour nous expliquer l'attitude qu'il attendait de ses disciples. Comme l'histoire est très connue, je vais imaginer comme il aurait pu raconter s'il était en Suisse, Jésus. S'il était en Suisse, il aurait peut-être dit qu'un Jurassien descendait de Delémont pour aller à Bienne dans sa voiture. Et puis il s'arrête à Moutier pour faire ses courses. Et derrière sa voiture, il y a un autocollant qui dit « Moutier au cœur du Jura ». Pendant qu'il fait ses courses, des partisans pro-Berne lui dégonflent les quatre pneus pour montrer leur indignation. Donc il rentre avec ses courses, mais il est embêté. Et puis il y a deux habitants de Moutier qui passent avec leurs courses aussi, qui regardent. Et puis, voient le problème, mais vont ranger les courses dans leur voiture et s'en vont. Et puis, ils sont aussi pro-jurassiens. Finalement, il y a un Congolais qui habite aussi à Moutier, qui était aussi en train de faire ses courses et qui regarde, qui voit et qui s'arrête. Et puis il voit qu'il essaie d'appeler quelqu'un, le gars, et puis il dit « Écoute, le cousin du mari de ma femme, il travaille chez un garage, et puis le garage est fermé samedi après-midi, mais il a une de ses pompes électriques portables qu'il peut venir apporter. Écoute, je le connais, je vais l'appeler pour qu'il vienne. » Et donc il le téléphone, il lui dit « Écoute, il y a quelqu'un qui est en panne, est-ce que tu peux venir maintenant ?» Puis il dit, eh ben, le gars, il va venir maintenant. Donc, je te passe son téléphone encore. S'il n'arrive pas en 10 minutes, tu peux l'appeler. Et puis alors, finalement, il s'en va. Il met ses courses dans sa voiture. Dans l'histoire de Jésus, ce qui est intéressant, c'est que les deux premières personnes ont vu ce qui se passait. Mais ils n'ont pas vraiment pris le temps de regarder, de découvrir l'histoire, de s'arrêter, de connaître vraiment le problème. La chanson disait « On nous voit sans nous voir. On nous voit sans nous voir. » Ils sont là, mais c'est comme s'ils n'étaient pas là, dans notre regard, dans notre attitude. Nos visages ont une histoire. Juste voir la personne et s'intéresser, ça apporte énormément. C'est beaucoup. Juste voir et s'intéresser. On va chercher les invendus, deux boulangeries pour la rencontre des Ukrainiens. Et puis j'ai dit, oui, on prend ces invendus pour la rencontre des Ukrainiens. Ils sont tout contents de recevoir ce genre d'aide, tout ça. Et puis la personne qui était de l'autre côté du balcon cette fois, elle a dit, ouais, mais je vais être sincère, j'aime pas que vous aidiez ce genre de personnes. Parce qu'il y a beaucoup de gens en Suisse qui ont besoin d'aide, et puis il ne faudrait pas les aider. J'ai dit, mais tu sais, on aide aussi les autres étrangers et les Suisses dans le bureau social le jeudi matin. Ce n'est pas seulement ce groupe-là. Je dis, ouais, mais je ne suis pas d'accord. Et puis, je n'ai pas dit, mais j'aurais dû dire, c'est plus que du matériel qu'on leur aide. Ils n'ont pas vraiment besoin des invendus de la boulangerie. C'est s'arrêter et s'intéresser à leur histoire, ce qui compte le plus pour eux. Qu'on ait pris le temps de ça. De s'arrêter et s'intéresser. Et témoignage après témoignage, on écoute que ça apporte énormément, et plus que de l'aide matérielle. Au début, quand on est arrivé, j'ai demandé à Georges et Dominique, ce projet va jusqu'à quand? Et puis, ils ont dit, jusqu'à ce que le nombre de personnes qui viennent aux rencontres diminue, parce qu'il n'y aura plus nécessité, hein, ils ne ressentent plus le besoin s'ils ne viennent plus. Donc on arrête. Et puis ça n'a jamais arrêté de... Le numéro a grandi depuis qu'on est arrivé même. On est à peu près 50 à chaque rencontre. Parce que c'est vrai qu'on peut donner juste pour dire « Allez, prends ça, il ne me dérange plus. » Un truc matériel. Mais dire « Je m'intéresse à toi et à ton histoire », ça apporte beaucoup plus. Et Daniel Roth et Andy, ils peuvent aussi témoigner. Il y a des gens qui viennent au bureau social juste pour pouvoir être écoutés. C'est même pas pour recevoir de l'aide. Des fois, ils partent avec le sentiment d'avoir été aidés sans qu'on ait rien donné. Juste d'être arrêtés et puis d'avoir pu déballer tout ce qu'ils ressentaient. Ils se sentent aidés sans recevoir du matériel parce qu'on s'est arrêté et on s'est intéressé. L'indifférence, c'est quelque chose qui blesse. L'indifférence, ça fait mal. Mais s'intéresser guérit. L'indifférence blesse. L'intérêt à quelqu'un guéri. Avec Natacha, la traductrice, là, finalement, elle est venue pour une de ses premières rencontres. Et puis Fabien avait bien prêché qu'ils étaient libres de partir et venir quand ils voulaient. C'était juste pour les accueillir. Et au fil du temps, ça s'est détendu. C'est qui ces étrangers? Au début, elle avait cette attitude. Après, les rencontres ont montré, ben, c'est des étrangers qui s'intéressent à moi. Donc je suis à l'aise. Avec ça. Ça fait descendre les préjugés qu'elle avait contre nous, qui sommes des étrangers pour elle. Conseil numéro 2, donné par Jésus dans cette histoire, c'est aider selon ses possibilités. Aider dans l'histoire de Jésus ne voulait pas dire faire tout le travail. Hein. Le Samaritain a fait les premiers soins, ensuite il a délégué la responsabilité à quelqu'un d'autre. On a tout à fait le droit de dire « je peux juste aider avec ça, Je peux juste aider avec cette action-là, ce domaine-là, je ne peux pas faire plus. Quand j'ai passé une journée avec Andy, quand il travaille au bureau social à Renan, j'ai remarqué ça et je vois que c'est ce que Daniel il fait ici aussi. On leur dit, on peut aider avec ça. Et puis ensuite, si vous avez besoin d'autres aides, si vous avez besoin d'un cours de français, il y a la Croix-Rouge. Si vous avez besoin de dormir, il y a la Marmotte. Si vous avez besoin d'habits, on peut vous donner un bon de la brocante. On ne peut pas aider tous les domaines de quelqu'un. Aider quelqu'un ne veut pas dire subvenir à tous ses besoins. C'est impossible et ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est intéressant que c'était déjà l'ordre de Dieu dans l'Ancien Testament. D'aider l'étranger selon nos possibilités. Regardez ce texte intéressant. Quand vous ferez la récolte, vous ne couperez pas les épis qui sont au bord de vos champs. Vous ne reviendrez pas ramasser les épis qui restent. Vous ne reviendrez pas non plus dans vos vignes pour ramasser les grappes de raisins qui restent ou les grains tombés par terre. Vous les laisserez aux pauvres et aux étrangers installés dans le pays. Le Seigneur, votre Dieu, c'est moi. Ils ne demandent pas de retirer de leur famille pour donner aux étrangers, non. Même pas de diminuer leur chiffre d'affaires. Dans ce cas, c'est de laisser les coins du champ et ce qui est tombé dans la moisson pour l'étranger et le pauvre. C'est le surplus. C'est ce qui est possible à toutes les familles de donner. Ce message a été préparé avec l'aide de Dominique et Georgie dans la recherche des textes bibliques, dans la réflexion et les réflexions que je partage là, on a discuté ensemble. Et donc, je leur ai demandé de venir pour que je puisse leur interviewer sur le travail parmi les Ukrainiens. Ils ont dit que oui. Et je veux qu'on écoute comment eux, ils ont mis en pratique ces deux principes très simples. Alors, Georges et Dominique, comment est-ce que ça a commencé ce projet?
Alors, le projet a commencé lorsque la Confédération a lancé l'appel il y a 2 ans, qui cherchait des lieux d'accueil pour tous ces réfugiés ukrainiens qui arrivaient en masse en Suisse. Et on s'est dit, mais il faut faire quelque chose pour ces gens et on ne voulait pas rester non plus insensibles. Donc, il est venu l'idée pour nous d'offrir un lieu d'accueil, un lieu de partage, un lieu de rencontre ici, à l'Armée du Salut, dans cette salle, pour leur permettre de se réunir, de se rencontrer.
Est-ce que vous avez des exemples de ceux qui ils vivent sur place? Vous avez déjà entendu des histoires?
On a vécu quelque chose de très fort avec une grand-maman qui s'appelle en russe, on dit Babushka. Babushka est en Suisse avec sa fille Marina. Et Marina, petite-fille de Babushka, c'est Daniel, 9 ans. Sa petite-fille s'appelle Anastasia, et la maman d'Anastasia est restée au pays, ainsi que son papa et son grand frère. Tous les trois sont militaires professionnels en Ukraine. Donc nous étions dans notre jardin, dans un endroit paisible, et Babushka reçoit un coup de fil de sa fille Natalia, donc restée au front. On était pratiquement en direct avec elle. Elle pose quelques minutes avec elle et parle du moment que l'on passe ensemble, que l'on partage, un petit moment de joie pour elle, et on lui fait un petit coucou même à travers la webcam. Tout d'un coup, la grand-maman Babushka parle en ukrainien tout affolée. Nous voyons bien qu'il se passe quelque chose. Sa fille au front pleure et n'arrive plus à se ravoir. Nous nous sentons complètement impuissants. Nous vivons une tragédie en direct. La fille de Babushka est éclaireuse et a le rôle de repérer les positions ennemies, ainsi que de signaler les départs de missiles et de drones. Donc ça fait plus d'une année et demie qu'elle est au front. Là, elle explique qu'elle était partie en mission de reconnaissance le matin avec 10 de ses compagnons. 5 hommes sont rentrés de mission, 5 autres ont perdu la vie au front. Ils se téléphonent tous les jours, avec l'angoisse qu'un jour, elle ne répondra plus. Natalia, sa fille, a passé depuis le début de la guerre un long temps caché dans la forêt, dormant à même le sol, les habits et la nourriture rongés par les souris. Sa sœur Marina, qui est ici à Croix, travail dur. Dès les premiers jours de son arrivée, elle a trouvé un travail au café de la gare à Croix. Sans l'aide de l'EVAM, elle a économisé de l'argent, ainsi que d'autres membres de sa famille restés en Ukraine. Elles ont ainsi pu lui acheter une voiture. Ils lui ont acheté cette voiture pour qu'elle puisse dormir au chaud et à l'abri des rongeurs. Voilà le quotidien de ces familles, parmi tant d'autres. La peur de perdre un être cher est très présente, mais elles ne se plaignent jamais. Elles ont une force extraordinaire qui pour nous est un exemple.
Sur aider pratiquement, comment se passent les rencontres?
Alors les rencontres commencent bien par la préparation d'un repas, la mise en place de la salle avec une décoration pour qu'elles se sentent accueillies. Ce sont des moments très chaleureux, très conviviaux, d'échange et de partage entre elles. Cela leur permet de se rencontrer, puisqu'effectivement elles logent un peu éparpillées dans la région, donc elles se voient peu souvent, et de faire connaissance et de partager leurs soucis, de partager leurs besoins, et de découvrir un petit peu aussi comment fonctionne notre système chez nous, et de se donner différents trucs. Avec toutes ces rencontres, il y a une méditation, un message qui est donné, une lecture de la parole, et je dois dire qu'elles ont une écoute qui est très respectueuse de cette parole. Et il y a une soif qui est bien présente pour elles de découvrir la parole sous une vision qu'elles ne connaissaient pas dans leur pays. Donc elles sont d'éducation ukrainienne orthodoxe, ébahies, reconnaissantes, et elles découvrent l'évangile sous un autre angle.
Donc elles découvrent Dieu d'une autre manière, avec une liberté.
Voilà.
Et pourquoi ça continue? Donc on avait dit qu'on allait arrêter si ça diminuait. Pourquoi vous pensez qu'elle continue à venir?
Alors, si elle continue à venir, c'est parce qu'effectivement, elle trouve une chaleur, elle trouve quelque chose de réconfortant. Et je peux vous dire que l'armée du salut dans leur cœur, c'est quelque chose de puissant. Elles ont une reconnaissance envers l'armée du salut qui est énorme. Et elles en parlent avec un A majuscule et un S majuscule. Dans ce groupe, dans ces rencontres, comme on dit en français, il n'y a pas de lézard. Il n'y a pas d'arnaque et il n'y a pas de peur. Les fruits, je dirais, ben Dieu seul les connaît, mais quelque chose est en train de mûrir, de germer. Et si leur nombre diminue pas, ben c'est qu'il y a quelque chose de bon et elles se le transmettent entre elles. Deux fruits, je dirais, c'était lors de la sortie du poste cet été. Lorsque le moment de témoignage du culte est venu, bien ce sont deux filles de l'armée du salut, deux filles ukrainiennes, pardon, qui se sont avancés et qui ont donné leur témoignage. Donc, ça en dit long sur leur évolution.
Tu peux partager un des messages qu'ils ont envoyés?
Le monde ne serait pas si beau s'il n'y avait pas des gens autour de nous pour le rendre plus gentil et plus intéressant. Merci d'avoir été là. Une belle rencontre. Et un autre, je suis rentrée chez moi et j'ai de nouveau été très impressionnée. J'ai vu votre gentillesse envers les enfants et c'est très touchant pour moi. J'aimerais beaucoup communiquer avec vous, mais malheureusement mon niveau de français est faible. Mais j'ai une grande incitation à étudier. Je voudrais écrire sur vous au Nazel, je pense que c'est le Nazel, pour dire à beaucoup de gens que dans notre vie, il y a des gens qui ne sont pas indifférents à notre chagrin, au chagrin des autres.
Est-ce qu'il y a un verset qui vous motive? Quand peut-être vous vous sentez démotivé ou séduit, peut-être pas.
J'en ai un verset tout dernièrement. Chacun doit donner selon ce qu'il a décidé dans son cœur, non à contre-cœur ou par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. De plus, Dieu a le pouvoir de faire abonder gracieusement envers vous toutes sortes de dons, afin qu'ils soient toujours pourvus à vos besoins et que vous puissiez pourvoir abondamment toutes sortes de choses.
Tu as changé?
Fais aux autres ce que tu aimerais que l'on te fasse.
Et la dernière question, quelles sont vos attentes par rapport à la communauté?
C'est peut-être un peu plus de curiosité sur notre activité donc l'activité du groupe en général, son action, ses retombées, et peut-être savoir comment vont nos amis ukrainiens.
En écoutant les chants, ces chants qui sont remplis de joie, de paix, qui nous portent tous les jours, et mon désir, ce serait que nos amis ukrainiennes soient parmi nous. Parce qu'on n'a pas le droit de garder ces paroles que pour nous. Elles en ont besoin encore plus que nous pour vivre tous les jours. Pour pouvoir imaginer que chaque jour, elles attendent un téléphone, qu'un membre de leur famille a peut-être été tué, ou blessé, ou tellement de choses. Et je crois que ces paroles, on ne doit pas les garder. Et là, j'ai envie de vous demander de rentrer dans notre barque, de notre petit groupe, pour nous aider pour pouvoir les amener ici. Ils ont fait des programmes français. On n'a pas besoin de chambouler nos cultes, mais qu'elles soient là dans des moments de louange et qu'on prenne du temps à dialoguer avec elles.
Merci beaucoup. Si ce n'était pas clair avec ce message, je veux encore une fois le dire clairement. On n'attend absolument pas que vous commenciez un travail comme celui de la chaîne. On n'attend pas de vous non plus que vous veniez les jeudis matins pour soutenir le travail social qu'a fait Pa Daniel. Non, c'est probablement pas ce que Dieu vous demande de commencer un nouveau travail, de soutenir l'accueil social. Mais s'arrêter, s'intéresser aux étrangers, ça on peut demander à tout le monde. C'est déjà énorme si on s'intéresse à ce que Dieu met dans notre chemin, à ces personnes-là. Et dans le même chapitre de Lévitique qui parlait de la cueillette, la moisson, il parle de nouveau de l'étranger et il dit comme ça: quand un étranger viendra s'installer chez nous, chez vous, dans votre pays, ne profitez pas de lui. Au contraire, vous agirez avec lui comme avec quelqu'un de votre peuple. Vous devez l'aimer comme vous-même. En effet, vous aussi, vous avez été des étrangers en Égypte. Le Seigneur, votre Dieu, c'est moi. Dans le cas d'Israël, ils devaient se rappeler qu'ils avaient été esclaves en Égypte. Mais dans notre cas, on peut réfléchir un peu comme Georgie une fois a partagé avec moi. Elle dit: je n'ai pas été réfugié, mais qui sait si un jour je le serai. Réfléchir dans l'autre sens. Le monde est très imprévisible. Là, c'est possible de se mettre à la place de l'autre, de s'arrêter, de imaginer comment ça serait si c'était moi, et de regarder l'autre et découvrir son histoire. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, merci pour cet appel mis dans ce poste, Seigneur, dans des personnes comme Daniel Roth qui s'occupe de plusieurs étrangers, comme le Lacha et le groupe qui les accompagne. Seigneur, merci pour Randy aussi qui a fait énormément dans le bureau social et puis maintenant dans la division. Seigneur, ce sont des personnes qui s'occupent des exclus de la société. Voilà, qui s'intéresse aux exclus de la société. Merci parce que cette Église le fait. On le fait en tant que communauté, on le fait en tant que les membres de cette communauté, on le fait, on met en pratique ces commandements de s'occuper des exclus de la société. Seigneur, merci pour ces personnes. Merci pour le cœur et l'appel que tu as mis dans cette Église pour prendre soin de ces groupes de personnes. Seigneur, on ne veut pas seulement s'appuyer de ce que l'Église fait, Seigneur, mais avoir un cœur similaire, aligné à cette vision, de regarder chaque exclu, chaque groupe d'exclus, et juste s'intéresser, Seigneur, juste regarder leur visage, juste écouter leur histoire, Seigneur, et montrer qu'ils sont importants, que c'est des gens créés à ton image, Seigneur, que c'est des gens que tu aimes profondément, qu'on leur montre par notre intérêt. Seigneur, et si jamais il y a aussi la possibilité d'aider pratiquement, qu'on puisse le faire selon nos possibilités, sans se sentir contraint à faire quelque chose, sans se sentir pressionné ou obligé de faire quelque chose, mais d'être disponible à le faire selon nos possibilités. Je te remercie pour cela, je demande de bénir notre semaine, Seigneur, avec ta présence, Seigneur, et ce regard bienveillant envers tous. Amen.